énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
question
d'éthique, respect de la
politique internationale,
équité,
biodiversité,
pollution, paix.
On vous parle des OGM qui sont partout et on ne le sait pas trop. On vous parle également des forêts au Québec. Enfin, on aurait un nouveau plan de survie au Québec pour les régions. Nicolas Mainville nous en parle. On vous parle également du Bureau d'audience publique en environnement et de sa décision sur le Mont Orford. Et beaucoup plus, évidemment. En deuxième partie de l'émission, on a l'honneur de recevoir M. François Meloche du groupe Investissement Responsable. Il va nous parler de l'ABC des fonds environnementaux. Évidemment, on termine avec nos coups de cœur et nos coups de masse. Patrick Bonin au micro cette semaine en remplacement de Sofiane Legendre. Je suis bien accompagné de Nicolas Mainville et Hugo Lachapelle. Nous avons toujours Étienne Côté-Paluc à la régie. Et également, c'est notre webmestre parce qu'évidemment, Délirium Environnemental, ce n'est pas qu'une émission de radio, c'est également un site internet que vous pouvez consulter au www.radiodelirium.net et vous pouvez également vous servir de cette possibilité d'aller visiter notre site pour vous inscrire à la cyberlette, une cyberlette qu'on a à tous les semaines où vous trouverez l'essentiel de nos nouvelles de cette semaine. Donc, messieurs, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Bonjour. Vous savez, à Délirium Environnemental, on a pris, comme habitude au cours des dernières semaines, de faire une petite section humeur en début d'émission. Eh bien, cette semaine, je crois, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont des habitués, que nous sommes tous des étudiants ici présents, tous des étudiants de surcroît, en grève. Eh bien, on a décidé de parler un petit peu de cette fameuse grève parce qu'on est dans une situation au Québec où il y a des grosses questions qui se passent et le fait qu'il y a des étudiants dans la rue, eh bien, remettre en question un petit peu ce système dans lequel on se trouve où on dit qu'il y a un contexte budgétaire qui ne nous permet pas de faire des dépenses supplémentaires ou même qu'on est obligé de couper dans tous les domaines ou presque. On se souvient que cette semaine, il y a eu des coupures de 150 millions dans l'aide sociale. Ça n'a pas fait la manchette. On s'attend à ce que les gens se mobilisent pour ça. On a également eu comme, on peut dire, un scoop de la presse la semaine passée qui nous disait que le ministère de l'Environnement et du Développement durable serait coupé de 5 millions lors du prochain budget. Ce sera à suivre. Eh bien, on en est rendu là en tant que société. On a des coupures partout et on a jugé important de justement remettre ça un petit peu en contexte, ce fameux contexte budgétaire où on n'a pas une scène. Eh bien, on est allé voir notre ami Léopold Lauzon. En fait, c'est un ami parce qu'on le considère comme un allié. Il fait partie de la chaire, en fait, c'est le titulaire de la chaire socio-économique de l'UQAM. Et en tout temps, en fait, on reçoit des études assez... révélatrice au niveau de cette chaire. Et j'ai l'intention de cette semaine de vous parler un petit peu de cette fameuse étude. En fait, il y a plusieurs études. Je vous réfère à notre site web pour aller voir les liens directs. Eh bien, on nous parle justement d'une possibilité d'aller chercher 10 milliards en taxes et en impôts et de façon assez facile comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus dans les médias. Je vous récapitule un petit peu ce en quoi consiste ce 10 milliards. Eh bien, c'est bien simple. Selon les dernières statistiques fiscales du Québec, en 2004, il y a 4191 grandes entreprises au Québec qui n'ont payé que 1,7% d'impôts. Vous vous souviendrez qu'on se dit, Québécois à Québécois, est-ce qu'on paye trop d'impôts? Bien, 4191 entreprises ont payé que 1,7% d'impôts. Est-ce normal? La question est là, est-ce normal? Simplement de facturer ou plutôt de charger un taux d'impôt normal à ces entreprises-là permettrait d'aller chercher environ 4 milliards pour la société québécoise. 4 milliards, évidemment, c'est pas demain que ça va se faire, mais il faut qu'on garde en tête. Il y a également une autre façon d'aller chercher un 2 milliards que Léopold Lauzon nous propose. Eh bien, ce 2 milliards, ce serait aussi simple que de dire, écoutez, au Québec, on a de l'aide gouvernementale pour les entreprises. Et ça, c'est M. Séguin, l'ancien ministre des Finances, qui le disait. Un total de 5 milliards par année qu'on donne en aide fiscale pour les entreprises. Eh bien, si on se compare avec l'Ontario, l'Ontario donne 2 milliards, ce qui veut dire que le Québec donne, grosso modo, 3 milliards de plus en aide aux entreprises. Évidemment, ne serait-ce que de prendre un 2 milliards pour cette aide-là et de le redistribuer ailleurs serait une solution. Il nous restait encore 1 milliard de plus que l'Ontario en aide aux entreprises, ce qui veut dire qu'on serait probablement pas... pas en problème de compétitivité avec l'Ontario à ce niveau. Évidemment, lorsqu'on parle de richesse au Québec, faut également qu'on se réfère à ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Donc, c'est l'ensemble des biens et services produits au Québec. Eh bien, on se rend compte que depuis 93, le produit intérieur brut du Québec a augmenté de 34,2%. Ce qui veut dire qu'on a produit 34,2% de plus de biens et de services au Québec. Donc, on est en présence d'une croissance économique évidente. Pendant ce temps-là, les entreprises, depuis 1993, ont augmenté de 2,5 fois, soit plus que deux fois leur profit, leur bénéfice net annuel, le bénéfice réel, en fait. Et pendant ce temps-là, les différents tout contribuables, les citoyens du Québec, eh bien, le revenu aurait diminué en incluant tout le travail supplémentaire de 1,81%. Donc, on se rend compte que les entreprises font beaucoup de profits et les individus n'en payent n'en font pas beaucoup.
Est-ce que tu te demandais pourquoi ces commentaires de M. Lauzon n'étaient pas publiés dans les médias?
Eh bien, je me pose même pas la question parce qu'on sait qu'on a un problème de concentration des médias au Québec et même au Canada. Tout ça, finalement, pour vous rappeler que entre 90 et 2003, eh bien, écoutez, les entreprises canadiennes ont fait passer de 11 à 88 milliards leur argent placé dans les différents paradis fiscaux. Donc, c'est encore une fois une façon qu'on pourrait aller chercher de l'argent. 11 à 88 milliards en près de 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'évasion fiscale. Et tout ça pour terminer peut-être sur les grandes banques canadiennes qui, selon encore une fois, Monsieur Lauzon, eh bien, ce serait évadé de 7,5 milliards de dollars en payant des taxes simplement parce qu'ils ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Et là, on parle de banques canadiennes. Donc, c'était simplement pour vous dire d'entrée de jeu que nous sommes tous en grève, mais que la question est beaucoup plus large et profonde que cela. Et c'est important d'y réfléchir si on veut avoir une société qui nous représente.
Il aurait fallu renommer notre capsule pour la donner un titre genre comédie satirique et non pas humeur.
On peut rire en terminant. Les chiffres qui vous ont été lancés, on va continuer sur une lancée de budget parce que vous savez, le budget à Ottawa a été passé et entre autres à l'intérieur de la future loi pour le budget, en fait il a été passé, il a été proposé, eh bien on propose des choses pour Kyoto et là c'est le branle-bas de combat. À Ottawa, il y aurait des possibilités qu'on renverse le gouvernement parce qu'il y a des partis qui ne seraient pas d'accord avec ce qui se passe au niveau des différentes contraintes que Kyoto amènerait dans ce budget. Nicolas Mainville, tu nous en parles.
En fait, il y a les trois partis. On parle du NPD, des conservateurs et du Bloc québécois qui sont en train de, je dirais, se préparer une riposte contre le gouvernement libéral à dire, écoutez, vous êtes en train de jouer sous les jupons de la loi de protection de l'environnement fédéral. Vous savez que, bon, c'est les grosses négociations pour la question qui Kyoto. On n'a pas encore de plan Kyoto. Hein? Avez-vous ça passé, vous?
Ni au plan Québec, Kyoto, hein? Ni à Ottawa.
Avez-vous entendu parler de la date du 16 février dernier? Genre date de mise en œuvre du protocole de Kyoto, c'est là que ça s'est passé. Eh bien, au Canada, on n'a toujours pas de plan. Et puis, ça devrait se passer, ce plan, avec le budget. Et puis, une des petites manigances du gouvernement libéral était d'introduire un mot de 6 lettres dans le prochain projet de loi, ou en fait, projet de loi de mise en œuvre du budget, pour être plus précis. Et ce mot de 6 lettres était le mot toxique. Toxique pourquoi? Évidemment, pour le CO2. Vous savez que le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable des changements climatiques et de l'effet de serre sur cette planète. Et puis, le fait d'inclure ce mot toxique dans la loi de protection de l'environnement aurait évidemment changé la donne.
En fait, ce serait même de retirer le mot toxique parce que le CO2, les plantes respirent, jettent du CO2, donc n'est pas considéré comme étant toxique. C'est ça pourquoi il n'est pas dans la loi.
Ah, exactement, pardon. Tu as tout à fait raison, Patrick. Une chance que tu es là. Des fois,
ça me fait plaisir.
Donc, pour ça, tout ça pour dire que d'enlever le mot toxique, c'est-à-dire qu'on considérerait plus les émissions comme étant toxiques, le CO2 comme étant toxique, en fait, on pourrait l'inclure dans cette loi. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on peut réglementer les gaz à effet de serre par le biais de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. ce qui fait frémir évidemment Monsieur Harper, mais aussi le NPD et le Bloc, parce que c'est des manigances qui ont été faites sans consultation et ça n'a pas été officialisé dans le budget. Quand il y a eu la proposition du budget, ces genres de manigances-là n'étaient pas proposés, n'étaient pas mis sur table, et puis on réagit, et puis maintenant c'est la menace de faire sauter le gouvernement libéral.
Et c'est ça, simplement pour dire que le CO2 deviendrait justement un argument et les entreprises seraient prises devant, entre autres, la réalité qu'ils doivent déclarer leurs émissions potentielles de CO2. Et il y a beaucoup de gens au Canada qui n'ont pas d'intérêt à faire ça. Donc, entre autres, on parle d'entreprises automobiles, de constructeurs automobiles et aussi de tout ce qui est les grosses compagnies pétrolières. Tout ça ayant un lien, on est arrivé la semaine passée avec une petite nouvelle disant qu'on devrait être content parce qu'il y a une entente pour les automobiles au Canada, ou plutôt les constructeurs automobiles, et ils devront changer leur façon de faire.
Ben en fait, vous voyez, ça fait 4 ans qu'on essaie de négocier avec les constructeurs automobiles canadiens pour qu'ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre des automobiles vendues au Canada. Vous savez que la Californie est une sorte de référence en ce moment. On parle de 25% de réduction pour les constructeurs automobiles.
Proposé en Californie.
Exactement. Au Canada, on est allé même visiter les gens de la Californie pour s'inspirer de leur plan. Monsieur Efford des Ressources naturelles Canada et Monsieur Dion de l'environnement au fédéral sont allés négocier un petit peu, et Monsieur Lapierre aussi des transports pour essayer de voir comment qu'on peut faire ça. Eh bien, on nous a annoncé en grande pompe la semaine dernière, donc jeudi 24 mars, qu'il y aurait eu une entente finalement d'accepter par les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement fédéral et l'industrie automobile. Mais la grosse farce dans cette histoire-là, et permettez-moi de me rouler un petit peu par terre, 2 petites secondes.
Prends ton temps.
Alors, merci, ça me fait toujours du bien. Ce qui s'est passé, c'est que cette mesure sera volontaire, réduction des émissions de gaz à effet de serre des constructeurs automobiles volontaires. Et c'est M. Efford qui a fait l'annonce. Tout à fait en grande pompe.
Ressources naturelles.
Malheureusement, on ne connaît pas les détails de cette mesure qui, semblerait-il que c'est une bonne nouvelle. Mais bon, vous savez que l'industrie automobile devrait s'engager, selon cette mesure, à réduire de 5,3 millions de tonnes d'ici 2010 les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, l'industrie ne s'est pas engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par le biais d'une amélioration en termes de rendement de consommation de carburant. Donc, ce ne serait pas les automobiles qui consomment moins de carburant, mais l'industrie par une espèce de stratégie magique qui ferait en sorte, probablement par le biais des chaînes de construction, plus que l'automobile comme telle, comme source de gaz à effet de serre, qui ferait ces réductions. Alors, on parle d'un 4 avril au soir, la prochaine annonce de M. Dion pour nous dire si vraiment cette proposition a du sens.
Donc, pas très encourageant de voir des mesures volontaires.
C'est une vraie joke, en fait.
Je crois qu'il n'y a même pas matière à être heureux, même si vous êtes M. Dion, ministre de l'Environnement. En fait, c'est selon moi problématique lorsqu'un ministre de l'Environnement se réjouit d'avoir des mesures volontaires, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas, des mesures volontaires, et si on ne met pas, par exemple, de loi de vitesse sur une autoroute, est-ce que vous pensez que ça va être respecté? C'est un petit peu le même principe.
Et voilà.
Pendant ce temps-là, en Europe, ils ont réfléchi à la chose. Ils semblent des années-lumière en avant de nous en termes de législation. Et Hugo Lachapelle va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine passée avec des objectifs de réduction qui seraient audacieux en Europe.
Ben, ils sont peut-être pas à des années-lumière en avance, mais ils sont tout du moins quelques bonnes années en avant de nous. En fait, pendant que le Canada est en train de tergiverser sur les objectifs à adopter, l'Europe pense déjà, la Commission européenne pense déjà à l'après-Kyoto, qu'est-ce qui se passe après 2012, parce que il faut s'entendre là-dessus. Kyoto, c'est un espèce de bande test finalement entre 2008 et 2012. C'est vraiment un projet à court terme pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on est capable de le faire et comment on est capable de s'organiser pour bien le faire et pour que ce soit profitable, pas au sens économique, mais profitable au sens écologique du terme, disons. Alors, qu'est-ce que la Commission européenne s'est entendue pour faire? Eh bien, c'est d'inclure dans un de leurs textes, en fait, c'est une proposition quant au fait que le groupe des pays développés envisagerait des profils de réduction d'émissions de 15 à 30% d'ici à 2020. Alors, d'ici à 2012, 6% des réductions d'émissions à 6% en deçà de 1990. Et là, de 2012 à 2020, des émissions de 15 à 30% en deçà de ces émissions-là, de ces objectifs, en espérant qu'ils aient été atteints.
Hmm. Et il y avait également des tergiversations, à savoir qu'on voulait fixer des objectifs pour 2050.
Et oui, on regardait ça à long terme en se disant... On a des objectifs, on voudrait inclure une phrase dans le texte qui prévoyait des objectifs de 60% de réduction pour 2050. Malheureusement, en ce moment, l'Autriche et l'Allemagne, et l'Italie particulièrement, se sont un peu opposés à cette à l'inclusion de cette phrase-là dans le texte, ce qui amène certains groupes écologiques comme le WWF et Greenpeace nous dire que l'Union européenne, même si elle fait quand même quelque chose de bien en se donnant des objectifs d'ici à 2020, est en train de rater l'occasion de montrer qu'elle a une vision à long terme du changement climatique. Et c'est vraiment le genre de vision que l'on doit avoir, une vision d'ici à 2050. C'est la moindre des choses pour un contexte comme celui-ci.
On se souvient peut-être juste que l'ensemble de la communauté scientifique internationale s'entend pour dire que ça prendrait 10 fois Kyoto pour stabiliser le climat planétaire. Donc, ça équivaut justement à ce 60% de réduction dont on parlait. On n'est pas encore sorti du trouble, je dirais. Bien, vous savez, vous êtes toujours à l'écoute de Delirium Environnemental et on vous parlait juste de Kyoto. Les changements climatiques sont partout. En fait, c'est intéressant de voir la place que ça prend. Et les gens trouvent plein de sortes de solutions pour contrecarrer ces changements climatiques. Et les Suisses sont vraiment impressionnants. Hugo Lachapelle, tu dois nous parler de cette nouvelle abracadabrante.
La farce de la semaine.
Ben oui, pendant qu'on essaie de faire de la réduction du suremballage dans nos épiceries et dans nos centres commerciaux et pour tous nos produits manufacturés, la Suisse, elle, s'apprête à emballer ses glaciers dans une mousse spéciale, c'est-à-dire mettre une espèce de toile anti-solaire, le concept de la toile que tu mets sur ta piscine, mais à l'envers, disons, pour mettre les glaciers à l'abri des rayons du soleil et du réchauffement climatique. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le glacier, les glaciers suisses avaient reculé de 5 mètres chaque année depuis un bon nombre d'années. En fait, ce qui est étrange, c'est que pour la période de 1973 à 1985, on avait mesuré par satellite une réduction de 1% de la surface des glaciers, alors que de 85 à 2000, la période suivante, les glaciers ont perdu 18% de leur surface. En fait, on nous dit que en raison du réchauffement climatique, c'est en tout près d'un cinquième de la surface des glaciers suisses qui aurait disparu, et on a décidé de subvenir ou de régler ce problème-là en s'achetant à 30 francs suisses le mètre carré, à peu près 30 piastres le mètre carré, une toile pour couvrir nos glaciers. Projet cocasse s'il n'en est pas un.
Pathétique, en fait, on devrait dire, parce que c'est l'ensemble des glaciers un petit peu partout à travers la planète qui a ce problème de fonte accélérée. Donc, on verra bien ce qui va se passer et à la
on
limite...
On se rappelle, juste pour commenter là-dessus, on avait parlé de cette nouvelle aussi sur le Kilimanjaro, ça, vous vous rappelez de ce, justement ce dernier glacier, un des derniers glaces éternelles en Afrique qui est justement menacé par les changements climatiques, et on parlait de mettre une grosse tarp, une grosse toile bleue, là, ben vendue chez
une
Canadian
Tire. Une grosse bâche.
J'aimerais parler aux constructeurs du stade.
En effet. Ben écoutez, on est tanné de parler de changement climatique, c'est important d'en parler, mais c'est parce que ça prend trop de place dans les médias. Donc, on va vous parler d'autres choses qu'on entend moins parler, mais qui sont tout aussi inquiétantes. Et je parle, bien sûr, des fameux OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et pas plus loin qu'au sud de nous, soit aux États-Unis, il paraît que les gens ne savent pas qu'ils mangent des OGM.
Eh bien, imaginez-vous donc, il y a une étude qui a été faite de 2001 à 2004 auprès de 1200 Américains et qui a étudié un peu l'évolution dans le temps des perceptions des Américains quant aux OGM, et on s'aperçoit qu'il y a un Américain sur trois qui un Américain sur trois qui sait qu'il mange régulièrement des organismes génétiquement modifiés. Les deux tiers ne le savent pas carrément. Et en fait, il y a toutes sortes de résultats intéressants de cette étude qui nous dit qu'environ 75% des produits alimentaires transformés contiennent des OGM un peu partout dans nos épiceries et que pourtant, les gens ne savent pas c'est quoi un gène, ne savent pas c'est quoi un OGM et qu'est-ce qu'un OGM va faire à leur nourriture. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas où il y en a et donc les OGM sont encore un grand problème.
Un sacré grand problème, mais plus loin qu'aux États-Unis. Écoutez, cachez-vous, on va pas se cacher la vérité. Là, c'est la même chose au Québec. On parlait de 75% des produits transformés qui contiennent des OGM aux États-Unis. C'est à peu près le même pourcentage au Québec. Il n'y a pas moyen de le savoir. Donc, vous tous à la maison ou dans votre auto qui nous écoutez, eh bien, c'est la même réalité. On a des OGM dans notre alimentation présentement. Et la seule raison pourquoi on ne peut pas le savoir, c'est parce qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire au Québec. Et ça, c'est vraiment problématique. Au Québec, entre autres, et en Amérique du Nord.
Mais je pense que ces résultats-là soulèvent clairement qu'il y a un manque d'information flagrant qui doit être comblé.
Eh bien, Nicolas Mainville, peut-être que tu peux renchérir sur la stupidité humaine avec ce qui se passe aux États-Unis encore en termes d'OGM.
Ben, je veux dire, c'est un autre exemple flagrant de manque de législation et de contrôle des OGM un peu partout sur la planète, mais c'est aux États-Unis cette fois-ci. Vous connaissez peut-être le maïs BT, maïs qui a été, il y a un gène inclus dans ce maïs, qui est le gène de Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui produit un pesticide. Et puis, ce pesticide-là, est inclus dans le maïs comme tel. Et puis, le maïs BT, il y a différentes variétés, on dirait. Et puis, Syngenta, qui produit ce maïs BT, avait une variété qui est le BT-10. BT-10 étant illégal en ce moment aux États-Unis et au Canada. Eh bien, on a appris dernièrement par la revue américaine Nature qu'il y a 37 000 acres de BT-10 qui a été cultivé aux États-Unis entre 2001 et 2004, sans qu'on le sache. Et puis, ce BT-10 a finalement s'est retrouvé
sans
sur...
qu'on le sache.
Sans qu'on le sache, c'est vraiment ça.
C'est incroyable.
Ça s'est retrouvé sur, le commerce... directement, le commerce de graines et voyons, je cherche mes mots. Maïs. Voilà. Hein, bon. Et puis, ce maïs illégal, en fait, s'est retrouvé cultivé et aussi commercialisé. Le problème, c'est que c'est lorsqu'on s'attarde à la cause. Pourquoi ce maïs BT s'est retrouvé sur le marché? Eh bien, c'est parce qu'en ce moment, il y a le BT11, qui est le petit frère du BT10. BT11 étant accepté sur le marché et commercialisé. Et puis, c'est une différence très minime, point de vue général, entre ces deux BT, eh bien, apparemment, la compagnie se serait trompée et il y aurait eu des centaines de tonnes de semences plantées sur le terrain sans qu'on le sache. Et puis, c'est les vendeurs de BT, maïs BT10 qui s'en sont rendus compte. En fait, les vendeurs de maïs BT11, on s'entend, qui se sont rendus compte qu'il y avait du BT10.
Eh bien, un autre exemple qui nous fait craindre un petit peu l'avènement des OGM un petit peu partout, parce que on n'a pas de contrôle sur ces fameux OGM-là, d'autant plus que ce sont des organismes vivants qui se reproduisent et qui se déplacent un petit peu partout dans l'environnement. On a une certaine forme de contrôle, en fait, je devrais dire, et ça passe par l'alimentation biologique, entre autres. Et les Québécois qui se préoccupent de plus en plus de savoir, justement, lorsqu'ils achètent des produits biologiques, est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en ces produits-là? On a eu des résultats là-dessus la semaine passée. Hugo Lachapelle.
Mince fierté à avoir au Québec. On est quand même la seule province qui encadre l'utilisation du terme biologique à travers du Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, en fait, qui se donne trois rôles, donc encadrer l'utilisation, faire le suivi des plaintes reçues et visiter les commerces pour s'assurer que l'appellation bio n'est pas utilisée à outrance ou abusivement. Alors, en 2003, on avait fait une tournée d'inspection pour s'apercevoir qu'il y avait à peu près 96% des produits vendus qui étaient conformes. En 2004, on a décidé de faire la même enquête, mais lorsqu'on a commencé à compiler les données, on s'est aperçu que les résultats seraient à toute fin pratique similaires et on a décidé, parce que vous pouvez imaginer que le Conseil des appellations agroalimentaires du Québec n'est pas très subventionné. On parle de quelques têtes de pipe qui travaillent à des salaires sous-payés probablement, qui nous ont qui ont décidé de mettre leurs efforts sur d'autres dossiers, en fait leur travail sur le terrain de visite des commerces.
Donc c'est quand même encourageant de savoir que la certification biologique au Québec est respectée dans une très grande partie, soit 86% l'an passé des produits. Je pense que c'est très positif et
qu'il y a quelqu'un qui regarde ça, qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de s'assurer que qu'on l'utilise pas à outrance.
Exactement.
Cette appellation.
D'autant plus que la demande est de plus en plus grande. Il y avait des chiffres qui sont sortis cette semaine aux États-Unis seulement. Écoutez, on est en train évidemment d'atteindre des pics de production d'aliments biologiques. Et puis on parle en ce moment de 30 milliards de dollars US de production d'aliments biologiques. Et puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça prend environ 3 ans pour se certifier biologique. Vous savez, c'est tout un processus assez rigoureux pour atteindre cette certification. Mais puis aux États-Unis, on est en train de voir la vague de 2000-2002 qui sont en train de rentrer sur le marché, mais on estime à 2007 évidemment des pics de production assez intéressants. D'autant plus qu'ici au Québec, on a des programmes aussi intéressants. Puis je pense que l'avènement du 10e anniversaire de l'agriculture soutenue par la communauté d'Équiterre, vous connaissez ce programme-là probablement, l'agriculture soutenue par la communauté, en fait, c'est un programme parrainé par Équiterre qui permet aux différentes fermes biologiques un peu partout au Québec à donner des paniers de légumes et de fruits biologiques aux Québécois un peu partout dans la province. Et puis, on atteint cette année 20 000 personnes qui vont bénéficier de ce programme-là en 2005. Évidemment, des nouvelles extrêmement intéressantes puisque on est rendu à 14 régions au Québec qui bénéficient de ce programme-là. C'est en fait 97 fermes biologiques qui fournissent pour le programme, 365 points de chute un peu partout au Québec qui permettent à ces 20 000 personnes de s'alimenter de façon plus saine par le biais de l'agriculture biologique.
L'idée étant, entre autres, de commercer directement avec l'agriculteur, donc de couper les intermédiaires, d'aller directement acheter de la ferme. Et lorsqu'on parle, on donne, évidemment, il y a un coût relié à ça, mais on vous invite à aller visiter le site d'Équiterre où ils donnent toutes les informations et vous allez pouvoir avoir des paniers biologiques. On vous revient par la suite avec les forêts au Québec. Mais que se passe-t-il?